Notre première question, c'est de vous demander d'expliquer votre rôle et votre implication dans la Convention du patrimoine mondial.
Oui, alors j'ai été le délégué allemand pour 18 ans. Une longue période, jusqu'à ma retraite en 2000-2001. Alors de 1983 jusqu'à 2001. Et d'abord, jusqu'à la réunification de l'Allemagne, j'étais le seul. C'était une situation tout à fait différente de l'actuelle. Et je me réjouis que j'ai pu assister à ces premières séances parce que c'était pas beaucoup de monde et très peu de diplomates. Je me rappelle à Brasilia. Je suis allé à l'ambassade allemande. J'ai dit, vous savez peut-être qu'il y a à côté dans le ministère, le bel édifice, il y a la session du comité. Oui, mais vous savez, nous le savons, mais notre expert pour la culture, il est allé en...
Il était allé en vacances.
Il n'y a personne ne s'intéresse à cela. Vous pouvez continuer comme vous voulez. Alors, j'ai pu parler, j'ai pu me taire. C'était ma propre décision. Et après, j'ai écrit les rapports, je les ai distribués, j'ai pas eu de réponse à mon rapport. Ça n'intéressait personne en Allemagne.
Dans les années
80.
Oui, qui vous a envoyé? Qui? C'était le gouvernement ou qui?
J'ai été envoyé par le ministère des Affaires étrangères sur proposition de la conférence permanente des ministères de culture allemand. Okay. Alors,
une double nomination.
Okay. Parce qu'à cette époque, chez le gouvernement central, il n'y avait personne pour s'occuper de la politique culturelle extérieure. Maintenant, c'est un peu différent.
Alors, votre première réunion, c'était à Florence.
À Florence, oui.
En 83.
C'était un peu dur pour moi de comprendre comment les choses vont, les règles, de connaître les règles et de suivre les règles dans une langue étrangère. Je n'étais pas encore officiel. À Florence, j'ai été une sorte d'élève. J'avais à mon côté un collègue plus ancien. Mais là, en 84, j'ai été seul et j'ai été compte, c'était à Buenos Aires.
Alors, retournons au début. Yeah. La convention est créée en 72 et notre question, c'est de vous demander, c'est quoi votre perception, c'est quoi les objectifs de la convention?
J'ai dit tout à l'heure, je pense, la convention est une invitation La convention n'est pas seulement une liste du plus beau qu'il y a dans le monde. C'est une invitation aux pays du monde de collaborer sur le plan culturel. Et les pays développés sont invités à aider les pays en développement, pas avec de l'argent, mais avec leur expérience, avec l'expertise que les experts possèdent et peuvent transmettre. Et la collaboration toutes sortes de collaborations est bon pour mieux comprendre les autres pays et pour établir la paix. Et la paix, c'est le point final de tout le travail de l'UNESCO.
Et puis, pour retourner, vous avez mentionné la liste du patrimoine mondial. La liste, mais vous étiez là trop. Est-ce que vous avez entendu des discussions sur la question du longueur de la liste? De combien longue la liste devait être? Parce qu'aujourd'hui, il y a 936 lieux sur la liste, et en plus, peut-être 5000, 2000 sites sur la liste indicative.
En réalité, la liste est beaucoup plus longue parce que dans la liste, d'abord, on a inscrit un monument, la cathédrale d'Aix-en-Provence, les îles Galapagos, c'est un peu plus grand, mais toujours un bien très, très précis. Après 20 ans, dans les années 90, on a commencé avec les nominations sérielles. Oui. À la session de Naples en 97, on a inscrit tout l'œuvre
du fameux
architecte italien du 16e siècle. Palladio, of course. Palladio, yeah. On a dit Palladio, c'est quelque chose d'extraordinaire et il a influencé l'architecture pendant des siècles dans les pays anglo-saxons. Et en Italie, il a construit pas mal de choses. Il a construit des palais, construit des villes. Alors, sont entrés dans la liste une trentaine de monuments, presque toute l'œuvre de Palladio. C'était un développement qui menait à des grands risques. Parce qu'avant, on aurait inscrit peut-être la Villa Rotonda, exemple de l'œuvre de Palladio. Si. Et à Naples, les Italiens étaient les autres, ils ont proposé pas une villa, mais une trentaine de villas. Et le comité a accepté. Ils ne voulaient pas offendre l'Italie. Et ça continue. Vous savez, les chemins de Santiago. Les chemins de Santiago en Espagne. Alors les Français ont dit, mais aussi en France aussi, il y a des chemins, il y a les quatre grands chemins. Alors une centaine de monuments sont entrés dans la liste sous un seul chiffre. Alors la liste ne comprend pas 936 monuments ou sites, mais beaucoup plus. Je ne comprends pas comment le pauvre centre peut garder en vue le développement de ces centaines et centaines de biens. C'est pas possible avec le peu de personnel qu'ils ont. Je crois que ça, c'est le plus grand danger de la Convention, qu'on ne peut pas, qu'avec le développement de la liste, on perd de vue ce qui se passe sur les.
Alors, si on vous demande si la liste devrait être comme fermée, ou est-ce qu'on devrait ralentir, ou est-ce que la liste peut continuer pour toujours, qu'est-ce que vous direz?
Alors, on ne peut pas finir avec la liste. Je crois qu'il y a des. Il y a eu des on a inscrit dans des inscriptions, il y a eu des inscriptions très intéressantes cette année. Et les inscriptions suivent les recommandations de, je crois, de l'ICOMOS et de d'autres institutions encore.
The Lecklist.
OECN, il y a des catégories bien représentées et moins représentées. Et pour ceux qui gardent en mémoire, qui savent quelles sont les catégories peu représentées, ils ont de bonnes chances d'entrer dans la liste. Les premiers étaient les Anglais. Les Anglais ont établi une seconde liste tentative. Dans la première liste, il y avait Oxford. Pour moi, Oxford, c'est une des plus beaux choses de l'Europe. Ils ont mis dehors et ils ont enlevé Oxford pour mettre. Les sites de l'industrie du développement industriel qui a commencé en Angleterre pour suivre les recommandations. Ils ont obéi aux recommandations.
Alors, tournons donc à la mise en œuvre de la Convention et la question des décisions du comité, soit des décisions sur la politique, des politiques de gestion ou de groupement ou autre, et ou les décisions sur les cas précis qui ont pu influencer la mise en œuvre de la Convention, qui ont eu un grand impact sur la mise en œuvre. Est-ce que vous avez des exemples qui vous reviennent?
C'est pas toujours le développement quelquefois est un autre. Je pourrais vous parler de nominations qui ont été préparées, et les souteneurs de la nomination ont dit il faut faire un bon travail pendant les années qui précèdent la nomination pour donner plus de chances à la nomination. Alors, par exemple, il faut convaincre le comité que nous savons ce que la Convention nous oblige, elle nous oblige, et pas promettre et pas promettre et après la nomination de ne rien faire. Et je crois que cela a aidé le comité à accepter la nomination, par exemple, d'une ville qui n'est pas tellement importante que Wismar et Stralsund. Et après la nomination, le maire de Wismar, une femme, qui a dit nous avons eu de la chance à entrer dans la liste, et il faut toujours y penser, et il faut continuer avec le bon travail, et parce que autrement on peut nous délite, on peut nous enlever. Un autre exemple, c'est les églises de paix en Silésie. Mm-hmm. En Silésie. C'est l'inscription dans la liste a je pense, beaucoup aidé à convaincre notre gouvernement allemand de soutenir les Polonais, les autorités polonaises, de faire ce travail de restauration, et dans les dernières années dépenser assez d'argent pour la lutte contre l'incendie. Hein? Ça a été payé par l'Allemagne. Par l'Allemagne, parce que on a accepté qu'il y a une obligation envers les pays voisins, un peu plus qu'envers les pays de l'Afrique peut-être, et cela a aidé à faire des choses qu'autrement on n'aurait pas fait. Je crois que c'est un bon exemple de soutien, de la collaboration transfrontalière.
Oui, ça c'est intéressant. Vous étiez là quand même pour la discussion sur la question des paysages culturels, la question de l'étude globale et la stratégie globale, NARA, sur l'authenticité. Est-ce qu'il y a des éléments dans ces enjeux politiques qui vous a frappé?
La stratégie globale, il n'a pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les résultats de cette stratégie, avec le... avec cette stratégie globale, parce que je crois que cette reproche envers l'Europe d'être trop dominant dans la liste, c'est un argument politique qui n'est pas basé dans la réalité du patrimoine, parce que je crois que c'est... Parce qu'il y a des pays très riches en patrimoine, et il y a d'autres qui ne sont pas très riches. Les grands pays... j'ai fait une analyse de la répartition du patrimoine, qui a le plus d'inscriptions dans la liste. C'est l'Italie, c'est l'Espagne, et ça a resté pendant des années et des années. L'Espagne, le troisième, c'est la Chine. On en a parlé. C'est la Chine. Et puis,
le Mexique,
la France, l'Allemagne, et le Brésil, et l'Inde. Alors, ce sont les pays très riches en histoire, très riches en culture. On ne peut pas leur reprocher d'avoir tant de belles choses. Et de les introduire dans la liste.
Question finale et large, c'est dans votre évaluation, c'est quoi comment est-ce que vous évaluez la convention, ses réussites et ses échecs? Comment est-ce que vous voyez la réussite ou autre de la convention?
Je crois que la convention a renforcé assez fort la conscience envers les pays d'avoir la responsabilité, non pas seulement pour les pays même, mais envers le monde. Mais le der Pferdefuß, le point faible de la Convention, je crois, est que qu'on laisse la décision de nominer ou de ne pas nominer quelque chose au pays. On ne peut pas influencer les pays. Il y a des études, il y a des études pour pas mal de pays, ce qu'il y a d'important et ce qu'il y a de moins important. Et c'est toujours la culture nationale qui domine dans les listes tentatives et dans la liste. Par exemple, dans la Turquie, où vous n'avez pas les églises arméniennes. C'est une décision de politique de ne pas penser à la culture des minorités. Et il y a des pays qui collaborent avec les minorités, mais d'autres qui ne le font pas. Et la Convention ne possède aucun instrument pour obliger ces pays de ne pas oublier la minorité.